Bienvenue, aujourd'hui, on se penche sur la chute de MYCS. Vous savez, cette entreprise de meubles personnalisés en ligne.
Oui, qui a été déclarée en faillite le 12 février dernier, en 2024.
Exactement. On s'appuie sur des éléments tirés de la chute de MYCS, leçon de faillite. L'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi ça a capoté et surtout quel impact pour les clients qui attendaient leurs meubles.
C'est ça qui est souvent le plus concret.
Tout à fait. Comment une idée qui semblait si innovante au départ a pu finir comme ça? Ok, déballons ça.
Alors, le concept de MYCS, sur le papier, il avait vraiment tout pour plaire. La personnalisation de meubles facile via une interface en ligne.
Oui, ça répondait à une vraie tendance, non?
Le besoin d'avoir des choses uniques chez soi.
Absolument. Un potentiel de croissance qui paraissait évident, surtout à l'ère du numérique et du e-commerce. Une belle promesse donc. Mais alors, qu'est-ce qui a coincé? D'après les analyses, qu'est-ce qui ressort?
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est rarement une seule chose. C'est plutôt une accumulation.
Une sorte d'effet boule de neige.
Exactement. Les sources pointent d'abord des coûts de production. Des coûts structurellement élevés, en fait.
Ce qui rend les marges compliquées à tenir, j'imagine.
Voilà. Et ces coûts deviennent un vrai problème face à la concurrence. Le marché du meuble en ligne, il est hyper concurrentiel. Le prix, c'est clé.
Donc, pression sur les prix d'un côté, coûts élevés de l'autre.
Et ajouter à ça une expansion peut-être un peu trop rapide, trop ambitieuse. Ça a mis la pression sur toute la chaîne. Opérations, finances.
D'accord.
Sans oublier des soucis de gestion en interne. Et une stratégie marketing qui, bon, peinait peut-être à vraiment faire décoller la marque face aux géants.
Donc, un cocktail de difficultés, en somme. Et les conséquences, ben, elles dépassent l'entreprise elle-même. On pense aux investisseurs, bien sûr.
Oui, les investisseurs, les employés qui se retrouvent sur le carreau. C'est un rappel difficile.
Ça montre que même les concepts les plus brillants, les plus innovants, ne sont pas à l'abri des réalités économiques. Ce n'est pas un cas isolé, d'ailleurs.
Non, loin de là. Si nous relions cela à la situation générale, le cas MYCS est très parlant. Il illustre bien les risques du secteur e-commerce.
Même pour ceux qui semblent casser les codes.
Justement, l'innovation, c'est essentiel, c'est un moteur. Mais ça doit absolument aller de pair avec une gestion
solide,
rigoureuse, finance, opération, tout ça. L'un sans l'autre, ça ne tient pas sur la durée.
Et au milieu de tout ça, il y a les clients, ceux qui ont payé, qui ont commandé, parfois des mois à l'avance.
Ah, les clients.
Là où ça devient vraiment intéressant, enfin, intéressant et préoccupant, c'est leur situation. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour eux? Pour eux, c'est le flou total et beaucoup d'incertitudes. Très concrètement, les livraisons, celles qui étaient prévues, elles risquent de ne jamais arriver.
Fortement. Retardées sans date ou tout simplement annulées. Et après, vient la question des remboursements.
Oui, comment récupérer son argent?
Et là, ça se complique. Parce qu'on entre dans une procédure de faillite. C'est complexe, c'est long. Et les clients, dans ce cas, sont des créanciers.
Mais pas prioritaires, j'imagine. Hein.
Souvent non. Ils passent après les salariés, l'État, les créanciers garantis. Donc, récupérer l'argent, c'est loin d'être garanti.
Et puis, il y a la communication.
Inexistante, probablement. On imagine un service client fantôme.
C'est ça. Débordé au début, puis silencieux. Les équipes sont démantelées, les lignes coupées. C'est très frustrant pour les clients qui se retrouvent sans interlocuteur.
Et les recours légaux?
Possible, bien sûr. Mais souvent longs, coûteux. Et l'issue dépend de ce qu'il reste à liquider dans l'entreprise. Donc, beaucoup d'incertitudes. C'est une position vraiment désagréable.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on essaie de tirer les leçons de tout ça, pour les investisseurs déjà, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Pour eux, c'est un rappel, peut-être un peu brutal, de l'importance de la due diligence, l'analyse approfondie des risques. Il ne faut pas se laisser aveugler juste par le potentiel d'innovation.
Regarder sous le capot, en somme.
Exactement. Et pour les entrepreneurs, la leçon est tout aussi claire. Avoir une idée géniale, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout.
L'exécution est reine, comme on dit parfois.
Précisément. La gestion quotidienne, la capacité à s'adapter, la prudence financière, c'est ça qui est crucial. Cet équilibre entre la vision, l'idée de départ et la gestion rigoureuse, c'est là que ça se joue. Donc, l'histoire de MYCS, c'est un peu cette trajectoire rapide. La promesse, l'innovation, puis la dure réalité de la faillite.
Ça met bien en lumière la complexité du e-commerce.
Tout à fait. Et aussi sa fragilité parfois. Mais chaque échec, même si c'est dur, c'est aussi une source d'apprentissage pour tout l'écosystème.
Pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
Voilà. La résilience, la capacité à apprendre, c'est ça qui fait avancer. Et cela soulève une question importante. peut-être un peu plus large.
Ah mais, laquelle ?
Au-delà des chiffres, des opérations, quelle est l'importance de la confiance client ? Et surtout, comment on la maintient, ou du moins comment on gère la relation, même quand l'entreprise traverse des difficultés extrêmes, comme une faillite ?
Vous voulez dire, est-ce que la façon dont on communique la fin a un impact ?
Exactement. Est-ce que maintenir un minimum de communication, de respect, même dans la débâcle, pourrait influencer la perception de la marque à plus long terme ? Ou même la perception des fondateurs, pour leur projet futur ? C'est une question de confiance, finalement, même dans l'échec.
Une réflexion intéressante, effectivement. Bien au-delà du cas MYCS lui-même. C'est une bonne note pour conclure notre analyse.